Connaissances et témoignages.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour ces émissions qui concernent la tradition orthodoxe, qui vous concernent aussi car nous sommes en réalité la même Église. Bonsoir Père Jean-Clément.
Bonsoir François, puis bonsoir Didier également.
Oui, bonsoir, bonsoir Père Jean-Clément.
Et à tous les auditeurs de cette émission qui commencent à me connaître et me... Comment dirais-je, me supporter depuis quelque temps déjà.
Oui, oui, mais j'espère qu'on vous supporte avec avec grande joie.
Merci.
Et avec un intérêt réel, enfin un intérêt pour la connaissance de l'orthodoxie, je l'espère. Alors merci, nous allons parler de la musique dans la tradition orthodoxe.
Absolument. Donc c'est vrai que c'est un sujet très vaste, un sujet assez vivant qui doit nous parler, et c'est pour ça donc. Nous proposons une série de 3 émissions autour de cette thématique. 3 émissions dont chacune a sa coloration particulière. Aujourd'hui, bon, après une introduction, il a été convenu de parler de la musique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Bien sûr, ça c'est commun à tous les chrétiens. Bon, il y a peut-être une spécificité dans la lecture que peut faire un orthodoxe. Dans une prochaine émission, je parlerai plus précisément vraiment de la musique liturgique orthodoxe. Du sens qu'on lui donne, et puis de sa pratique dans les offices. Puis enfin, si les auditeurs ne sont pas trop lassés, peut-être qu'une 3e émission permettrait de faire un panorama géographique et musical en écoutant pas mal de musique, parce qu'après tout, quand on parle de musique, il faut bien en écouter, en écoutant un peu de musique, donc venant de nos diverses traditions.
Oui, et ces musiques réellement sont très belles. Bon, les catholiques romains ont de très beaux chants liturgiques, hein, c'est les chants grégoriens spécialement, mais dans l'orthodoxie, les chants sont vraiment d'une grande beauté.
Tout à fait, et ils participent pleinement, comme on le verra au fur et à mesure de nos émissions, ils participent pleinement, évidemment, à l'action liturgique. C'est très important, parce que justement, vous appuyez sur un point qui est très, très important, il y a une... pour nous, chrétiens en général, bien sûr, il y a un lien réel, indissoluble, entre la musique sacrée et la spiritualité. C'est tout à fait évident. C'est vrai que, qu'est-ce qu'on connaît finalement de la musique orthodoxe quand on n'est pas orthodoxe au beau jour, je ne sais pas quand ça va revenir concrètement, mais c'est vrai que fleurissent dans nos églises, dans nos temples également, des concerts de chants orthodoxes russes en général. Ce sont des groupes d'hommes, souvent, qui viennent de Russie ou de pays de l'Est, qui font connaître leur musique à travers des titres ronflants comme le chœur patriarcal de Moscou, le chœur des séminaristes de Saint-Pétersbourg. Bon, il ne faut pas trop fouiller. Et en effet, donc, on a cette approche-là avec ces chœurs, avec des belles harmonies, des voix d'hommes graves, sonores, riches en harmoniques, qui sont flatteuses pour nous, bien sûr. Mais... c'est une approche quand même un peu superficielle. La musique liturgique et la musique sacrée, l'art sacré n'est pas ça. Il faut le remettre dans son contexte. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important. La musique, elle participe donc pleinement à l'action liturgique. Elle le touche les sens, ça c'est très important. Nous sommes faits de 5 sens, vous le savez bien. Et puis c'est ça qui nous fait vibrer. Mais si la musique... ne touche pas non seulement les sens de l'homme, qu'il s'agisse d'ailleurs de celui qui écoute ou de celui qui chante, mais aussi le cœur, dans ce qu'il a, non, de plus sensible, bien sûr. Le cœur, c'est pas ça, mais de plus profond. Le cœur, c'est le lieu de l'esprit. Si la musique ne va pas jusqu'au cœur, ne s'introduit pas dans ce lieu de l'esprit, alors elle n'atteint pas son but. On pourrait parler de la même chose au niveau de l'icône, par exemple. L'icône, c'est très beau à regarder, mais c'est pas que ça. Si l'icône ne va pas nous chercher au plus profond de nous-mêmes, alors...
Oui, oui, c'est tout à fait ça, Père Jean-Clément, oui. La musique n'a rien à voir avec un simple accompagnement. C'est vraiment une pleine participation à la liturgie orthodoxe, aux offices.
Absolument.
Et à la vie en Dieu.
Tout à fait. Alors, l'exemple que je donnais tout à l'heure des chœurs russes qui viennent, c'est très beau, bien sûr, mais d'abord, on ne comprend pas ce qu'ils chantent. Quand bien même on le comprendrait, il s'agit de chants liturgiques sortis de leur contexte. Ce n'est pas suffisant, c'est flatteur, mais ça reste épidermique quelque part. Ça ne va pas au lieu de l'esprit. qui est le cœur. Alors, bon, faisons une lecture biblique de la musique, si vous voulez. D'abord, dans l'Ancien Testament, pour tout dire, je n'ai pas compté, mais je sais qu'il y a 575 mentions musicales qui sont recensées dans la Bible, réparties entre 44 livres, principalement d'ailleurs, on va voir, dans l'Ancien Testament. Alors, la musique est non seulement aussi ancienne que le monde, je vais vous l'apprendre, mais elle paraît même précéder le monde, c'est dire qu'elle a son importance. En effet, le Seigneur demande à Job « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Job 38. La musique, vecteur de louange à la gloire de Dieu depuis les fondations du monde. Donc, dans l'Ancien Testament, bien sûr, le livre le plus parlant pour le musicien, c'est le psautier, qui est généreux de détails. La musique y est presque tout le temps présente, associée à la danse et aux instruments, très important, et pour de nombreuses occasions. Elle est présente, donc, comme elle ponctue la vie du peuple de Dieu de l'époque. Elle est associée, on le voit dans les textes, à tous les aspects de l'existence. On chantait aux jours de joie, comme aux jours de deuil, au culte, au foyer, pour accompagner les travaux des champs, etc. Tout ça, c'est assez banal. On trouve ça sans doute dans toutes les traditions. Mais c'est vrai qu'il n'est pas une occasion où la musique était exclue, comme on va le voir. Dans la vie religieuse de l'ancien temps, donc, la musique, c'était un accompagnement, je dis ça vraiment, qui accompagnait d'abord les prophètes. Je ne vais pas donner toutes les références, mais avec Samuel, il y avait des musiciens qui jouaient luth, harpe, tambourin et sistre. Élisée, quant à lui, ça c'est très intéressant, convoquait un joueur de harpe pour pouvoir exprimer ce que Dieu lui inspirait. Et maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et il arriva, comme le joueur de harpe jouait, que la main du Seigneur fut sur Élisée. Deuxième livre des rois. La musique était également en usage au temple. Toujours la musique instrumentale, c'est très important, puisque nous ne la reconnaissons pas, donc on verra à quel moment on peut en voir la bascule. Donc la musique au temple dans le livre des nombres. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices et actions de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Donc voilà, l'instrument, la musique en général, permet ce lien avec Dieu, un appel quelque part. La trompette, c'est bien, c'est sonore, symboliquement bien sûr, c'est un appel à ce que Dieu vienne devant nous. Donc voilà, elle est convoquée plus que tout autre art, je pourrais dire. Bien sûr, il n'y a pas uniquement dans le peuple d'Israël, mais quand même. Alors, encore une fois, dans l'Ancien Testament, la musique est tout le temps à l'œuvre. Bien sûr, l'archétype des psaumes, c'est David, préfiguration du Christ, ne l'oublions pas. Mais aussi, j'allais dire, égoïstement, quelque part, archétype du musicien de l'Ancien Testament avec sa lyre, dont le jeu subtil plaisait à Dieu. Non seulement celui de la lyre, mais nous disent les chroniques, il réunit, pour la gloire de Dieu, un orchestre impressionnant pour louer Dieu lorsque l'arche est revenue à Jérusalem. Un peu plus tard, oh ça c'est bien ça, toujours dans les chroniques, c'est un orchestre de 4000 hommes qui est réuni pour louer le Seigneur. C'est étonnant quand c'est un orthodoxe qui le dit. Hein. Je lis ce passage. Et David dit qu'il y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison du Seigneur, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer le Seigneur avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Et un peu plus tard, toujours dans le livre des chroniques, tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison du Seigneur, le chant C-H-A-N-T, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant, très important, pour le Seigneur, tous ceux qui étaient habiles. Donc, on voit, évidemment, 4000, on sait bien que l'importance des nombres dans l'Ancien Testament est à lire sous un aspect plutôt symbolique, quand même. Ceci dit, une parenthèse, 4000, tu dois faire un orchestre qui doit sonner un peu particulièrement. Or, là, nous allons toucher, si vous voulez, avant d'écouter un premier extrait, à un texte qui est quelque part un peu fondateur pour nous, chrétiens orthodoxes. C'est un texte qu'on lit pendant les vêpres qui précèdent la liturgie du samedi saint, du grand samedi. Extrait de Daniel. « À vous tous, peuples et nations, gens de toutes langues, voici ce qui a été commandé. À l'instant où vous entendrez sonner trompe, pipeau, cithare, sambuc, psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique, vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or élevée par le roi Nabucodonosor. Celui qui ne le fera pas sera aussitôt jeté dans la fournaise de feu ardent. » Donc cette accumulation d'instruments, d'ailleurs, les traductions diffèrent parce qu'en général, ce sont des instruments dont on a complètement perdu la trace depuis longtemps, donc peu importe d'ailleurs, sont convoqués pour une gloire profane, très importante. Et à ce moment-là, toujours dans le même texte, trois jeunes juifs qui étaient au service du roi, Sédrac, Misak et Abnénago, vont devenir Ananias, Azarias et Misaël, dotés, ce qu'on appelle les trois jeunes gens dans la fournaise, dotés de ce nouveau nom très important, comme une nouvelle naissance. Les trois adolescents, il nous dit Daniel, se mettent à chanter d'une seule voix la gloire de Dieu. Plus d'instruments, mais la louange par la parole, par le chant seulement. Je dis simplement ce texte de Daniel. Alors tous trois, Ananias, Azarias et Misaël, donc les nouveaux noms des trois jeunes juifs, comme d'une seule bouche, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise. C'est vraiment l'un des textes fondateurs de la louange vocale inscrite dans le Nouveau Testament, préfigurant bien sûr cette nouvelle naissance, et donc en usage dans l'Église orthodoxe. Alors voilà pour parler, on a parlé de David et des psaumes. Je vous propose d'écouter en français le psaume 135, Polyéléos, beaucoup de miséricorde, car ta miséricorde est éternelle, c'est un verset qui revient en refrain, qui est chanté ici par les moines du monastère Simonos Petra du Mont Athos, qui ont fait l'effort de chanter en français sur une musique qui leur est propre. Le psaume 135, confessez le Seigneur car il est grand.
Après ce chant du psaume, nous pouvons peut-être parler maintenant de la musique dans le Nouveau Testament.
Volontiers. Donc, on a vu ce point de bascule où la musique passe des instruments à la voix, ça serait important pour nous. Après cette préfiguration, curieusement, donc, le Nouveau Testament, subtilement, oublie carrément les instruments de musique, sauf dans l'Apocalypse, les trompettes, bien sûr. La seule musique dont nous parle évangéliste et auteur des lettres, c'est celle de la voix pour la louange, souvent au travers du chant, des psaumes, du chant, c'est différent. Saint Paul évoque fréquemment le chant, comme ici, vous savez, quand il parle du don de prophétie dans la première lettre aux Corinthiens. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation. Si je prie en langue, je suis inspiré, mais mon intelligence ne produit rien. Que faire donc ? Je prierai inspiré par l'Esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai inspiré par l'Esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Alors, ces mots nous rappellent David et ses chanteurs, ou ses musiciens qui étaient professionnels, au sens où ils devaient être totalement imprégnés de leur art. David d'ailleurs nous le disait dans le psaume, car Dieu est le roi de toute gloire, chantez avec intelligence. Ça veut dire donc, appropriez-vous le texte pour pouvoir le ressortir, le diffuser, d'abord pour vous-même, et évidemment à destination de ceux qui écoutent. Alors, on pourrait poursuivre avec Paul notamment ceci, à Corinthe, donc toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, si l'Église est tout entière rassemblée et que tous parlent en langue, les simples auditeurs, les non-croyants qui entreront, ne vous croiront-ils pas fous ? Que faire alors ? Quand vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement ou une révélation, parler en langue ou bien interpréter, que tout se fasse pour l'édification commune. Très important, que celui qui chante le fasse, non pour lui, mais simplement pour le diffuser, comme je le disais, autour de lui, pour tous. Aux Éphésiens, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Bien sûr, on pourrait multiplier les citations d'une façon comme ça, un peu gratuite, un peu énumérante comme cela, sans pour autant être très entrer trop dans le détail, on n'a vraiment pas trop de temps. Il y a un chant qui nous est commun à nous tous, c'est le chant du Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alors c'est un chant, bien sûr, tiré du Nouveau Testament. Je vous propose de l'écouter dans une version orthodoxe, bon, de tradition byzantine, version orthodoxe parce que nous-mêmes, nous le chantons aux matines, dans un office particulier, donc aux matines qui précèdent la liturgie, notamment le dimanche, bien sûr. On le chante entrecoupé d'un verset qui est propre, qui est un peu notre prière à Marie, très fréquente dans l'orthodoxie. C'est une prière que l'on dit presque tout le temps. « Plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans corruption enfantes à Dieu le Verbe, tu es vraiment la mère de Dieu, nous te magnifions. » Prenons un peu de temps pour écouter quelques-uns des versets de ce Magnificat. Le lieu de l'esprit dont on parlait tout à l'heure. Donc, la musique dans l'Ancien Testament est une musique presque essentiellement instrumentale, on l'a vu, qui nécessitait quand même une certaine technique, j'allais dire, je crois qu'on peut utiliser le mot, n'était convié que ceux qui savaient manier l'instrument. C'est pour ça que dans l'Église orthodoxe en tout cas, on en parlera la prochaine fois, seuls ceux qui savent chanter sont conviés à chanter. Tout le monde n'a pas ce don. Et on le voyait, chanter avec intelligence, c'est ce que nous disait saint Paul. Saint Paul aux Colossiens disait ceci, « Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. » En résumé, le chant religieux est vraiment un don de Dieu donné à quelques-uns pour le produire, j'allais dire. Il faut savoir lire la musique, il faut savoir bien poser sa voix, chanter, et aussi ne pas trop savoir le faire, j'allais dire, c'est-à-dire chanter avec une certaine retenue, pour pas se mettre en avant, pour pas que la musique prenne le pas sur la parole. On verra ça la prochaine fois, très important pour nous. Ce don qui est mis en nous, ce don doit être manié avec sérieux, et talent en communauté. Donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est surtout que nous dit saint Paul, pour enseigner, pour justement réunir la communauté. C'est donc en église, ça sera peut-être la conclusion de cette émission, que la musique, donc le chant pour nous, c'est là que ce chant trouve sa véritable place. Ça fera le pont avec la prochaine émission, si vous voulez bien. Le chant, c'est une magnifique expression de la parole de Dieu, dont la fonction est essentiellement de servir sa gloire. C'est exigeant pour sa mise en œuvre. Ça doit engager tout notre talent, tout notre cœur. Voilà, la musique, elle vient du cœur pour aller dans le cœur des autres, pour porter la parole, avec un petit P et avec un grand P, bien sûr. La parole qui est là depuis le début de la création et qui est renouvelée par la parole, le verbe s'est fait chair. Évidemment, nous avons parlé musique, on en a entendu deux extraits. Il y a un chant commun que nous a enseigné le Christ, la parole, le verbe fait chair pour accéder au Père. C'est le chant du Notre Père. Si vous voulez bien, François et Didier, on peut peut-être écouter ensemble un Notre Père. Alors, c'est un Notre Père de tradition russe qui chantait en français. Pour les spécialistes, c'est la musique de Kédros, un beau Notre Père, bien posé, bien calme. Ne l'écoutons pas d'une oreille extérieure. Nous n'attendons pas d'être flattés à ce niveau-là. Que cette parole que nous allons entendre, nous sachions la faire entrer au plus profond de notre cœur, comme à la liturgie ou à la messe. Et ainsi, on pourrait se quitter comme ça. Alors, la prochaine fois, on va rentrer plus concrètement dans la musique liturgique orthodoxe et je vous donnerai quelques pistes pour trouver des enregistrements qui vous permettront de poursuivre ce petit enseignement que nous faisons dans cette émission.
Merci, voilà. Père Jean-Clément. Mais les chants sont une véritable présence de Dieu.
Tout à fait, bien sûr. C'est ça, exactement. La parole est mise en valeur par la musique. Il y a une parfaite communion de l'un à l'autre. La musique doit quelque part participer à la diffusion de ce chant pour le bienfait de tous et pour la gloire de Dieu, bien sûr.
Amen. Nous entendons ce chant du Notre Père.
Et en restant en union de prière, au moins jusqu'à la prochaine émission.
Merci pour votre intervention.
Merci à vous tous, puis merci aux techniciens. Et au revoir à tous nos auditeurs en prière.
Nous saluons fraternellement toutes les auditrices et tous les auditeurs et nous les remercions de tout cœur de leur présence et de leur intérêt pour ces émissions sur la tradition orthodoxe.
Toi le Dieu.